Jean-Benoît et je, bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver ici. Nous sommes à Ostende, dans le cadre du festival du film d'Ostende, où vous présentez L'âge mûr, qui est votre première réalisation, le fiction, en tant que réalisateur. Donc, où vous jouez également, vous êtes Ludovic Archi, cinquantenaire, à la croisée des chemins. Indépendamment de la symbolique du métier d'architecte, vous semblez quand même être passionné d'architecture. Je n'en veux pour preuve que les dialogues professionnels assez pointus, vos prises de position sur les courants architecturaux. D'où vient cette passion?
Moi, je suis revenu de Louvain-la-Neuve, et à Louvain-la-Neuve, j'avais une grande bande de copains qui étaient architectes, qui étudiaient l'architecture, enfin qui étaient à l'université, et donc qui étudiaient l'architecture au moment donné de la foison des idées de jeunes adultes qui disent faudrait construire ça. Donc, ils m'avaient fait découvrir beaucoup de courants architecturaux à l'époque, et j'ai gardé quelques copains architectes qui ont travaillé là-bas, qui est parti au Japon construire des choses, qui a construit des maisons en terre paille, mais donc j'ai toujours été intéressé par la possibilité qu'avait l'architecte d'organiser la vie et comment est-ce qu'on habite les espaces. En fait, j'ai toujours trouvé ça captivant de pouvoir penser un espace dans lequel on évolue. Ouais.
Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour écrire ce scénario? Une image, une rencontre, une expérience personnelle?
Ben c'est un ami à moi qui a vécu, parce que donc l'âge mûr, ça raconte un architecte qui rencontre les filles de sa copine et puis qui se rend peut-être compte qu'il a pas été papa, qu'il a raté quelque chose. Et ça vient d'un ami à moi qui a vécu pendant longtemps avec une copine qui avait un ou deux enfants, même deux je crois, et qui s'est séparé du jour au lendemain, qui a plus du tout eu accès aux enfants. Et bon, comme la rupture était un peu douloureuse, la copine disait, ouais, ce gros connard, je veux plus que vous le voyez. Enfin, voilà. Donc lui, il a vraiment perdu tout contact du jour au lendemain. Et il m'avait raconté à quel point ça avait été vraiment ultra douloureux pour lui de perdre des enfants qu'il avait accompagnés, parce qu'il était resté très longtemps avec cette fille. Je sais pas, 6 ou 8 ans, il était parti en vacances, ils avaient dû faire des devoirs, et tout d'un coup, il avait plus accès à rien et tout. Sa détresse et l'espèce de manque de réalité autour de ça m'avait vraiment fait de la peine, quoi. Et donc, j'avais commencé à développer l'histoire en fonction de ça.
Alors, le titre évoque une transition. Comment avez-vous cherché à traduire visuellement cette sensation de maturité, ou plutôt d'immaturité à l'écran?
L'idée de l'âge mûr, c'était de se dire que lui se comportait comme un enfant en tant qu'adulte, quoi, enfin comme un ado en tant qu'adulte, et que les ados se comportaient un peu plus comme des adultes. Mmh. Et c'était donc l'idée d'un petit peu inverser, et donc de trouver une jeune fille qui jouait à l'adolescence, qui était un peu plus mature que son âge, et qui donc avait déjà un peu des regards et des comportements sur qu'est-ce que c'était qu'être adulte, et lui qui, avec sa copine, qui est jouée ici par Ruth Beckert, jouait un peu à des jeux, s'amusait à faire du paintball, enfin voilà, et que donc lui gardait une espèce d'âme d'adolescent, et donc il y avait tout un endroit où lui, il n'avait pas vraiment accédé à l'âge adulte, et que finalement le film l'oblige d'une manière ou d'une autre à se confronter à qu'est-ce que c'est que de devenir adulte.
En parlant des atouts, je suppose que c'est quand même le grand défi d'un réalisateur de trouver ces deux perles rares, quoi.
C'est extrêmement compliqué, d'autant plus que dans le film, je voulais qu'elle puisse parler flamand, vu que je voulais que la maman parle flamand avec les filles. Donc, ça a quand même été une contrainte énorme pour les casteurs qui me disaient, ouais, mais bon, tu veux quand même quelque chose qui, il fallait, en plus, que les deux filles, j'avais envie qu'elles soient à peu près du même papa, qu'il y ait eu un papa pour les deux. Donc, il fallait que ce soit ou deux blondes ou deux brunes, mais je pouvais pas prendre une chicano et une grande norvégienne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes. Enfin, voilà, les différentes contraintes ont fait que, il fallait trouver quelqu'un qui avait 15 ans, mais qui faisait pas trop adulte, justement. Je voulais absolument éviter l'écueil d'une jeune fille très sexuée, parce qu'il fallait qu'il y ait pas du tout l'ambivalence de Ludovic tombe amoureux d'une ado. Enfin, on a déjà vu un paquet de films sur ça. Et c'était vraiment un écueil dans lequel je voulais pas du tout tomber, parce que c'était pas du tout la question du film, aussi bien l'écriture que au casting, quoi. Et finalement, l'enjeu principal était de pas du tout tomber sur une jeune fille très sexuée. C'était très très important.
Vous portez ce projet depuis quand même plus de 4 ans, ça veut dire avant la naissance de votre fille. Est-ce que la venue de celle-ci a changé quelque chose dans votre écriture?
Comme elle est toute petite, quand je l'ai eue, ça a pas changé grand chose. Je suis beaucoup plus troublé maintenant en voyant des films. Maintenant que ma fille a 3 ans et demi, de voir des films en me projetant dedans, en me disant, ah tiens, oh là là, ça peut être Jeannette, oh là là, qu'est-ce que ça me fait. Ou quand j'écoute Faites entrer l'accusé avec un petit gamin qu'on a retrouvé mort dans une cave, je suis beaucoup plus sensible qu'avant. Mais dans l'écriture de l'âge mûr, en fait, ma fille était tellement petite que j'avais pas encore.
Là, c'est la notion de paternité qui peut-être aussi peut changer les choses.
Oui, mais c'est en fait, on s'en rend surtout compte plus. Enfin, ouais, elle est encore très jeune, ma fille. Mais plus elle grandit, plus on devient père, en fait. Enfin, au début, c'est une épisodialité biologique. Il faut juste éviter que ça ne meure de faim, de froid, de soif. Mais c'est maintenant que ça commence un peu. Donc c'est plus maintenant que je suis touché par ces questions-là, de me dire en fait, voilà, qu'est-ce qu'on. Parce que moi, mon père est parti très tôt de la maison. Enfin, bon, j'en suis pas mort, mais j'ai posé beaucoup de questions là-dessus. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre qui parlent de ça. Presque tous mes films parlent de la question paternité, faire famille, etc. Et pour moi, la question de la paternité est surtout la question de la passation. Et ici, dans l'âge mûr, c'est ce dont j'essaie de parler. C'est comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de donner quelque chose à quelqu'un d'autre le donne et puis se rend compte que ça lui fait du bien, qu'il y a un système d'aller-retour. Et voilà, il s'y trompe un peu, mais il essaye en tout cas.
En parlant de données, le vélo électrique, il est arrivé comment?
En plus, il y avait une séquence de plus avec le vélo électrique. Donc, l'idée, c'est que Ludovic, ayant un gros pouvoir d'achat, n'arrive à rien faire d'autre que d'acheter tout le temps des objets, quoi. Et donc, on lui reproche, et même à la fin du film, les ados le disent, mais on n'a pas besoin tout le temps de tes cadeaux. Enfin, voilà. Et c'est la seule manière qu'il a, lui, de compenser un peu le réel. Et il y a cette idée de vélo électrique qui est arrivée. Et en plus, il y a une séquence qui est restée pendant très très longtemps au montage, où il essayait encore d'aller l'offrir à quelqu'un d'autre, un type qu'on voit au début du film, qui connaît à peine et à qui il voulait offrir ce cadeau. Et
bon, c'est pas l'esprit.
Oui, ça devenait un peu trop. Et bon, voilà, c'est le problème du montage, quoi. C'est que quand on tourne tout et puis on se dit aïe, aïe, c'est redondant. Mais en tout cas, j'aimais bien cette idée de quelqu'un qui tout d'un coup faisait un peu Attila et avait un espèce d'objet dont il voulait se défaire absolument. Enfin, dont il n'arrivait pas à faire cadeau.
Vous avez coécrit cette histoire avec Julie Lhuiton, qu'on connaît par notamment Animal et Des preuves d'amour, qui était présenté à la Semaine de la critique à Cannes l'année dernière. Comment s'est passée votre collaboration et quel était votre mode de fonctionnement?
Je l'ai rencontré via mon agent, parce qu'on a le même agent en commun, et donc moi j'avais commencé un peu qui irait d'autres gens, mais finalement en fait ça se développait pas très bien, et je savais qu'en tout cas pour ce qui était vraiment développement pur, je voulais rentrer avec une fille. Étant donné que il y avait deux personnages de jeunes filles et que moi j'ai pas eu de sœur, enfin j'y connais vraiment rien du tout, et donc je voulais développer ça, et donc mon agent nous a un peu mis dans les bras l'un de l'autre. Ça s'est super bien passé, et c'était surtout intéressant parce que Julie, c'est quelqu'un qui est une féministe engagée et qui m'a vraiment aidé à plein d'endroits où moi je me rends pas toujours bien compte, étant un boomer de 50 ans. Elle m'a dit, mais c'est ça, on dit plus, ça on fait plus, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'était vraiment pour moi extrêmement riche, hormis ses qualités de scénariste structurelle où elle m'aidait énormément, mais en tout cas pour tout ce qui était la consultation sur qu'est-ce que c'est qu'être une fille, comment est-ce qu'on parle à une fille, comment est-ce qu'on se comporte, c'était un domaine que moi je connais vraiment très très peu, quoi. Donc
dans les scènes familiales, comment avez-vous utilisé la mise en scène pour capturer la subtilité des interactions entre adultes et enfants sans tomber dans le mélodrame, évidemment?
En fait, de manière générale, ce que je fais, c'est que j'écris les séquences et je demande de pas trop étudier.
Il y a de l'impro?
On utilise l'impro quand c'est nécessaire ou pas. Parfois, il se fait qu'il y a certaines séquences où je me dis, c'était tellement compliqué dans ce qu'on devait dire, pas dire ou quoi, qu'on les a vraiment écrites au rasoir, et que parfois il faut simplement les tenir en disant, il n'y a pas à réinventer la séquence, en fait, où on en dit trop, où on en dit trop. Mais ça, on en parle ou trop peu, et donc il y a vraiment des séquences où on se dit non. En fait, ça doit tenir ce parcours-là, parce que le risque de l'impro, c'est de parler trop pour dire trop peu. C'est de remplir, et dire oui, mais tu sais ça, etc. Mais par contre, il y a vraiment des séquences où, avec les ados, on se disait, bon, mais ça marche pas, dans leur bouche, ça marche pas, parce que on a écrit ça il y a 3 ans avant de les rencontrer, et donc il faut les réinventer. Mais par exemple, il y a beaucoup de séquences avec Laurent Capelluto, quand on est au bureau, qui sont improvisées aux 3/4, en disant, tiens, voilà, il faut un peu réinventer le truc. Mais avec les ados, c'était compliqué, parce que vraiment, d'une séquence à l'autre, parfois ça marchait très bien, parfois ça marchait pas du tout. Mm-hmm. Donc il fallait tout le temps réadapter le dispositif.
En passant du court et aussi au docu, au film de fiction, quel a été le plus grand compromis que vous avez refusé de faire pour préserver l'identité de ce projet?
Pour préserver l'identité, je dirais que c'est de pas travailler des stars. En fait, voilà. J'ai pensé pendant tout un temps à essayer de trouver quelqu'un dont je tairai le nom parce qu'elle m'a baladé pendant longtemps. Mais pendant plusieurs mois, j'avais un peu pensé à quelqu'un. J'ai dit, ah, tiens, j'écris pour elle, ça peut être chouette. Et puis, en fait, ça répondait pas. Et puis, c'était compliqué. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai dit à Benoît, mon producteur, et j'avais un coproducteur en France. J'ai dit, bah, écoutez, on va arrêter. On va faire ça avec l'argent belge. On avait réussi à quand même lever un peu d'argent en Belgique, enfin, la commission. Et donc j'ai dit voilà, on va faire un compromis, c'est que moi je joue dedans. Alors ça c'était difficilement évidemment discutable avec tes producteurs, enfin quoique on pourrait toujours le dire, mais et j'ai dit ok voilà, on va faire un gros compromis financier, on va faire un compromis sur les décors, sur les costumes, sur l'équipe, sur enfin voilà, pour pouvoir garantir cette liberté là, sachant que moi je voulais que les gens soient bien payés et qu'on ait des jours de tournage. Ça c'était les deux choses inaliénables. Donc ce qui fait que voilà, par contre, on a fait une équipe très très réduite, mais ça c'était un choix aussi. Mais par exemple en décor, on savait qu'on avait accès à très très peu les voitures, les machins. Au début, j'avais pensé faire des trucs genre Diner in the Sky avec des grues ou quoi, mais tout ce qui commençait à coûter 10-15 000 euros par jour, on savait que c'était inimaginable en fait. Donc voilà, les compromis c'était in fine, je suis assez content de ce choix-là, d'une part parce que moi j'ai quand même beaucoup fait mes premiers films comme ça et que je m'y retrouve, mais que ça oblige à une espèce d'arte povera aussi qui concentre vraiment la narration avec aucune fioriture technique, virtuelle, enfin ou même bout virtuose, enfin voilà, c'est une caméra posée qui filme les gens et voilà. Au final, je trouve qu'il y a un côté très très sharp en tout cas dans le film que j'aime assez bien. Je suis content d'avoir préservé ça.
Benoît Roland, donc de Wrong Man, avec qui vous aviez déjà travaillé, c'était un producteur intrusif ?
Pas du tout. Non. Alors là, Benoît, il m'a vraiment justement laissé faire tout ce que je voulais en disant, bon, bah, écoute, on a cherché quand même à lever des financements en France et tout. On n'est pas parti la fleur au fusil. On est monté 2 fois en commission plénière au CNC en France pour l'aide à la production, quoi, enfin l'avance sur recette. Mais on l'a pas eu aussi parce que le film, je pense, avait une identité qui était quand même assez belge. Et je peux comprendre que les Français fassent un tout petit peu de protectionnisme. On n'arrivait pas à démontrer le côté français du film. Mais Benoît, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui avance en disant bon bah écoute, on fait ton film avec ça, on n'a pas besoin de tant d'argent, donc on peut le faire. Voilà, après les problèmes arrivent plus tard. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai pu travailler avec une aisance et une liberté énorme de choisir tout, mes comédiens, mon casting, enfin la technique, etc. Préserver mes jours de tournage, personne ne m'a dit ah non, on va te couper ça. Mais après ça, ben le problème arrive par la suite, parce que j'ai pas de distributeur, je sais pas si le film va sortir, je sais pas, enfin, et d'aller toquer à la porte des producteurs français, enfin, des distributeurs français, en disant, voilà, c'est un film que j'ai fait un peu à la maison, il y a pas d'acteur connu, il y a pas de, enfin, voilà, ne facilite pas du tout la visibilité du film, quoi. Donc, bon, ça, c'est un peu une question industrielle, mais néanmoins, c'est quand même important.
Parler du casting, Ruth Beckert, qu'a-t-elle apporté à son personnage de Nathalie?
Ruth, quand je l'ai croisée, c'était une évidence tout de suite. En fait, quand on a fait les castings, parce que moi, je l'avais vu de loin en loin dans des films, mais je l'identifiais pas très bien. Puis comme je reconnais pas trop les visages, je voyais plus trop qui c'était. Mais parce que Ruth, elle amène cette espèce d'endroit très très brut, sans mauvais jeu de mots. Mais elle est pas du tout madame, elle est pas du tout un côté popote que je voulais absolument éviter pour le personnage, parce que c'était vraiment important que Nathalie soit quelqu'un qui fait sa vie, qui a plus ou moins mis son mari dehors, qui s'est retrouvé sans homme, qui est très bien sans homme, qui a pas du tout besoin qu'un homme vienne lui dire, tu sais, c'est comme ça qu'on élève les enfants. Et Ruth, elle amenait cette espèce de liberté et de joie comme ça qu'avait Nathalie, qui était très important et qui s'est ultra bien passé pendant tout le tournage d'ailleurs.
Alors votre partenaire, ben c'est Laurent Capelluto, on l'a cité, et puis il y a Catherine Salé, des gens que vous connaissez. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que au contraire c'est plus difficile quand on connaît aussi bien les gens? Est-ce qu'on peut leur demander peut-être davantage?
Pour moi c'est plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile quand on connaît les gens. Après il y a le risque un peu comme on est des copains, on est un peu plus cool. Enfin voilà, il peut y avoir un risque un peu de laisser aller. Mais dans ce cas-ci, Laurent, je le connaissais un petit peu par-ci par-là. On avait travaillé ensemble, mais pas tant que ça. Il y avait une contrainte, Laurent, qui était des contraintes de logistique, qui fait qu'on devait faire toutes ces scènes au début. On avait juste 7 jours, et puis il était plus jamais libre après. Il tournait. Donc, on a réussi à faire un plan de travail aussi grâce à la légèreté de ce genre de projet. De dire ok, on fait toutes les séquences avec Laurent, comme ça c'est fait. Et c'était super parce que comme voilà, Laurent c'est quand même quelqu'un qui a guéri, les séquences sont rentrées très vite et on a trouvé le film grâce à Laurent. Après Catherine par exemple, qui a 3 séquences dans le film, tout s'est tourné en une journée. Donc on a l'impression qu'elle revient régulièrement, etc. Mais Catherine, elle m'a appelé la veille en disant, j'ai le dos bloqué, je peux pas venir, il faut m'envoyer un ostéo d'urgence. Donc on l'a amené chez l'ostéo à 7h du matin en taxi. Elle est arrivée sur le plateau à moitié avec des patchs chauffants sur le dos, etc. Mais par exemple, c'est marrant parce qu'on se dit, tiens, Catherine, elle revient souvent, mais elle est venue une journée sur le tournage, alors que c'est un personnage récurrent.
Quand le personnage justement de Catherine dit à Ludo, tu vas trouver quelqu'un d'autre pour faire ta crise d'ado, c'est dans le scénario ou c'est de l'info?
Non, ça c'était quand dans le scénario. Il y avait vraiment cette espèce d'envolée où Ludovic s'énerve, il se trompe complètement de cible et où elle devait lui dire, écoute, en fait là, ça c'est plus mes affaires, quoi. L'idée, c'était vraiment Catherine, l'idée de son personnage, c'est de ramener de manière assez souple et assez diffuse un passif, de se dire quand ils ont écrit une histoire ensemble, quelque chose n'a peut-être pas marché.
Comment avez-vous choisi vos décors qui racontent finalement ce que les dialogues ne disent pas? Je pense notamment au Musée Royal des Beaux-Arts, où on découvre la chute des anges rebelles de Peter Bruegel, l'ancien, ou même l'Atomium, puisque ça, le film a failli s'appeler l'Atomium.
Oui, à un moment donné. En fait, là, par exemple, c'est un peu l'endroit où le bas blessé au niveau des sous, quoi. C'est que les moindres décors, en fait, devient très 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 cher. L'Atomium, je sais plus combien. Si il était question de privatiser l'Atomium, on était sur je sais plus combien, 35 000 ou 50 000 euros. Enfin voilà, c'est des sommes hallucinantes. Donc l'Atomium, on avait une mini fourchette de tournée entre je sais plus quelle heure, 18 heures, et donc on devait avoir tout prêt pour qu'on arrête les. Donc là, on s'est retrouvé un peu coincé dans une logistique où en effet c'était difficile de privatiser. Il y avait des décors qui étaient difficiles à privatiser. Il y a par exemple tout ce qui se passe au musée des Beaux-Arts. J'aurais voulu là c'est pas très grave, mais j'aurais voulu que les gamines s'y entendent beaucoup sur tout ce qui était art contemporain. Uh-huh. Du chant, etc., qu'on puisse aller voir en urinoir. Mais par exemple, évidemment, les ayants droit, tous ces gens-là n'étant pas morts depuis 70 ans, au fait, les ayants droit demandent des 100 et des 1000. Et donc, en fait, on peut filmer tout ce qu'on veut de Bruegel, de Bosch, absolument tout ce qu'on veut. Ils étaient très contents de pouvoir filmer du Bruegel. Mais par exemple, voilà, c'était impossible de filmer une œuvre de Bosch ou de Duchamp. Donc, voilà, les cinémas, ça s'accordait de le réel aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, si j'avais eu l'argent, j'aurais vraiment voulu pouvoir avoir la gamine qui dit, ouais, mais ceci n'est pas un urinoir, ceci n'est pas une pipe, mais enfin, dis donc, elle s'y connaît en art, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Donc, on a dû négocier le réel, et je suis hyper content de pouvoir travailler devant ce Bosch, qui est un tableau qui, pour moi, le Bruegel, pardon, c'est vrai qu'il y a des décors où on s'est dit, tiens, ça, on n'aura pas accès, quoi. Voilà. Ça, on peut pas filmer, ça, on n'a pas le droit, ça, on n'a pas accès, ça, on rentrera pas dedans. Par exemple, quand je jette le vélo, je voulais absolument jeter le vélo dans le canal de Bruxelles. L'idée, c'était vraiment de jeter le vélo dans le canal, faire un symbole en large et tout, et genre, tiens, coule avec. Mais après des négociations, on n'a jamais eu le droit de la brigade fluviale. Même en disant, mais vous inquiétez pas, on va pas lui charger tout de suite, on peut mettre des filins qu'on enlève en effets spéciaux et tout, vous inquiétez pas, on peut même mettre des plongeurs dedans et tout. Mais la brigade fluviale a dit non, ça peut être utilisé à des fins de contre-publicité en disant on jette n'importe quoi dans le canal alors qu'on fait tout un travail. Et donc ça, par exemple, c'est une négociation qui n'a jamais abouti.
Alors, Ludo roule avec un ancêtre, une Volvo pour ne pas la citer.
Oui.
Il adore la musique classique, Sonate 141 de Scarlatti.
Oui.
Vous êtes un nostalgique, vous-même?
Pas spécialement. Moi, j'ai une bête Clio. J'aime bien les vieilles voitures, mais par contre, la musique classique, ça, c'était quand même très important et de pouvoir. C'est une sonate que j'avais déjà utilisée il y a très très longtemps dans un court métrage documentaire et que j'aimais beaucoup. Et je voulais travailler. Il y a le pianiste qui la joue. S'appelle Fabio Fiorini. J'avais déjà travaillé plus dans mon film La Musique. Et je voulais qu'à un moment donné, la variation pour piano, l'adaptation pour piano de cette sonate pour clavecin puisse un petit peu bouger. Et donc l'idée, c'était d'utiliser cette sonate qui, en fait, au fur et à mesure, se délitait un petit peu et dont les harmonies commençaient un peu à frotter. Et ça, c'est un travail qu'on a fait quand même pendant longtemps avec Nicolas Rumpel, le monteur, de se dire, voilà, est-ce qu'on utilise... Il y a un moment donné, comme toujours, où il y a un foisonnement de musique, on dit, tiens, tout est possible. Et puis on se dit, mais alors ça devient un peu le florilège, quoi. Ça devient un peu le medley de musique, et donc on a retenu ça. Mais même par exemple, Ludovic n'est pas non plus dans les écueils du type qui écoute du rock tout le temps et qui dit écoute Deep Purple ou Led Zeppelin, parce que je pense que ça l'aurait vraiment éloigné de la gamine, en fait, d'arriver à des références qui étaient un peu trop datées.
En parlant justement passé, vous avez le privilège d'avoir pu traverser les époques récemment, L'étranger, le film d'Ozon, et puis le Fossoir, le Retrouvailles avec Michael Rosquet. C'est un choix, ça vous attire quand vous voyez dans un scénario que on passe d'une époque à l'autre, hein?
Bah, les films d'époque, c'est toujours super à jouer parce qu'il y a un endroit où moi j'adore aller voir des films d'époque parce que c'est vraiment génial les films d'époque. Les Kubrick d'époque et tout, c'est incroyable quoi. Barry Lyndon et tout, c'est fou. Mais l'avantage des films d'époque, c'est qu'il y a quand même toute une partie des costumes, des décors, des machins qui jouent pour soi. En fait, je dis pas qu'on doit jouer moins, mais il y a quand même tout un décorum, il y a quelque chose qui fait que, quand on a un peu le chapeau, le machin, la veste, il y a déjà toute une partie qui joue tout seul, quoi. Donc ça, c'est assez agréable des films d'époque. Après, c'est par contre beaucoup plus contraignant parce que on a accès à des tout petits bouts de rue, des tout petits bouts de, là, le fossoir, on a dû faire ça à Bruxelles, dans Bruxelles des années 40. C'est sûr que on doit.
Vous connaissiez l'épisode de.
Oui, je connaissais parce qu'en fait c'est un ami à moi, Bernard Falaise, qui a coécrit le film, enfin qui avait l'idée originale du scénario. Et c'est une histoire que je connaissais d'avant. Et Bernard, lui, développait ça depuis des années. Et il avait aidé déjà Michael pour le casting de Runescope. Et il lui a proposé le film. Et Michael a dit, ah, super, on le développe ensemble. Donc ils ont scénarisé à deux. Mais c'était quelque chose que je savais depuis des années, dont il m'avait déjà parlé régulièrement. Je trouve que c'est hyper rigolo.
Retrouvailles avec Roscoe, comment ça se passe après tant d'années?
C'était super qu'il me refasse confiance et de pouvoir se dire tiens, on repart, parce que bon, Le Fidèle, c'était un film quand même assez important, mais là, Le Fossoir, c'était énorme, quoi. C'était quand même, on était vraiment dans des budgets beaucoup plus conséquents. C'était un film d'une énorme envergure, enfin, qui nécessitait beaucoup de financement, avec des financements tardifs, la peur de ceci, j'étais pas au secret de tout. On protège un peu de ça, les comédiens, mais je sais qu'ils ont évidemment eu des difficultés à monter un financement total de, je sais plus, 13, 14 millions. Enfin, je dis, voilà, en Belgique, arriver à monter ça, c'est sûr que c'est un montage financier difficile. Donc moi, j'étais très content. C'est super de pouvoir retrouver un réalisateur. Parce que travailler avec quelqu'un pour la première fois, c'est quelque chose, mais le fait de travailler avec, ça veut dire que la personne fait confiance et est content des résultats, quoi. Là, j'ai travaillé avec François Ozon sur L'Étranger. C'était super, ça s'est très bien passé et tout. C'est très agréable de bosser avec François. Ce qui serait super, c'est qu'on se rappelle, enfin, que lui me rappelle et qu'il dit, tiens, voilà, c'était chouette de pouvoir faire ça. Parce que, voilà, Michael, c'était aussi la preuve que, ça, voilà. Et puis c'est vrai qu'on avait quand même eu moi j'avais eu un Magritte avec ça aussi à l'époque du meilleur second rôle, donc enfin voilà, ça aide aussi à fidéliser un peu un endroit. Mais
à part une fidélité, l'équipe de Groland, c'est un peu la famille aussi là.
Ben eux, j'ai travaillé avec eux quelques fois, on a réussi plusieurs films. Il y a un film où j'avais été coupé au montage, mais j'étais grave à les travailler, et puis ils avaient fait ça avec beaucoup de bagou, ils m'étaient venus vraiment en amont en me disant voilà, c'est pour des raisons artistiques, et j'entendais tout à fait bien. Mais là aussi c'est chaud parce que j'ai travaillé une fois avec les deux, et puis j'ai travaillé après ça, je travaille deux fois avec les deux, et puis une fois mais juste avec Gustave pour que je me laisserai plus faire. Donc voilà, c'est toujours, on dit toujours tiens, c'est chouette quand ça rappelle. Parfois ils sont embêtés, mais tu sais, il y a qu'un jour ou il y a que deux jours. Mais moi je suis toujours content d'aller faire un jour ou deux, en fait, quand c'est pour des copains et quand les rôles sont intéressants. Comme je dis, tu vois, c'est Catherine Salé, elle est venue une journée sur le film. Et en fait, Catherine dans L'Âge Mûr, elle a un rôle vraiment assez important. En fait, enfin, c'est vraiment des rôles, c'est pas les rôles principaux, mais c'est un très gros rôle. Oui, déterminant, et qui revient à plusieurs moments, qui ponctue le récit. Enfin, c'est des scènes assez nodales. Donc en fait, parfois, et je sais qu'il y a des casteurs ou des casteuses qui me disent ouais, on n'ose pas t'appeler pour un jour. Et je dis, il faut pas penser en termes numéraires, en fait. Enfin, voilà, une journée, parfois, c'est plus facile à caser. On doit pas garder la moustache, les cheveux, etc. On vient une journée, on fait une journée de tournage. Et il y a des films, j'avais tourné pour Reine Mère de Manel Labidi, j'étais venu une journée, il y a plein de films où je viens une journée, et en fait, voilà, à l'arrivée, c'est super.
En parlant de tournage, justement, fin de l'année, ça a été 2025, ça a été assez chaud, là. Je notais en mai, vous étiez sur l'initiation, imitation de la vie.
Oui.
J'avais l'impression, en lisant le synopsis, que j'étais dans les couloirs du cinéma aventure, non?
Oui, et c'est vraiment un docu-fiction. Hugo Geoffroy, le réalisateur, c'est quelqu'un qui avait rendu des films en commission, et il y avait un quiproquo, parce qu'il avait mis mon nom comme comédien pressenti dans une commission dont je faisais partie, dont j'étais embêté, on s'était appelé pour en parler, etc. Puis on s'était bien entendu. Et puis lui m'a appelé pour ça. Mais là, on est vraiment sur un espèce de film qui est à mi-chemin entre l'installation, le docu, la fiction, parce que c'est vraiment sur les ongleries de la galerie L'Aventure, qui risque de devoir fermer pour des questions de volatiles. Quand on rentrait avant, ça puait, il y a même eu des intoxications. Et donc voilà,
lui, ils ont dû fermer aussi.
Ils ont dû fermer un temps, et puis et moi je viens jouer justement l'espèce de personnage qui dépend de la commune de Bruxelles, qui vient mesurer les degrés volatiles. Mais c'était assez marrant parce que ça parle très peu, c'est vraiment un film d'installation, il y a très peu de dialogue. C'était très chouette de travailler comme ça parce que c'est un film qui est beaucoup moins un film d'incarnation avec un personnage fort, etc. Donc c'était très agréable. Là ça se termine maintenant, je pense, le montage.
En nous, c'était Rouler des mécaniques, un premier long encore.
Oui. Ça, c'était un premier long métrage qui était rigolo, où je venais faire un garagiste. Mais là, je suis venu, je sais plus combien, j'avais 2 jours, je crois, 3 jours. Et puis, c'est marrant parce que c'est des films où ça arrive souvent qu'on vit en tout début à la toute fin. Et donc, on voit l'équipe au début, fraîche et dispo, le cœur vaillant, et puis on les voit à la fin, et des poches sous les yeux, et ben, ça s'est très bien passé, le tournage, mais, waouh, il est temps que ça se termine, on est fatigué, parce que, évidemment, c'était un premier long qui nécessitait quand même pas, parce qu'il y avait la voiture, c'était un peu road movie, il y avait quand même beaucoup de choses, avec un budget qui était un budget de premier long, mais c'était super, on s'était vraiment bien entendu, c'était une très chouette équipe.
Et alors, en septembre, c'était l'une des leurs, où vous rencontrez Céleste Brunkel et Ever Buttons. C'était aussi un premier long.
Ouais, là, ils m'ont appelé, c'était un long produit, enfin, coproduit par Michigan en Belgique. Ils m'ont un peu appelé pas en catastrophe, mais assez tardivement par rapport au film. Ils m'ont dit oui, pourquoi pas. Mais là aussi, j'étais tourné 2 jours. Je pense que je faisais le patron de la friterie dans laquelle travaille Céleste. Et là, je me disais, bon, pourvu que ça se passe bien, parce que bon, c'est quand même des journées, on est toute la journée derrière les frites, dans les odeurs, dans la chaleur, avec les gens qui font les blagues, oui, encore une frite, s'il vous plaît. Et ça s'est super bien passé, parce que Céleste, elle est très carrée, elle est très calme, enfin,
c'est très beau quand même.
Oui, c'était très agréable, parce que c'est une jeune fille, elle est complètement en place, et puis on s'est très bien entendu, on s'est bien amusé, mais là, j'ai été vraiment...
C'est du vrai stacanovisme, quand on voit quand même tout ça, non?
Ben oui, mais bon, finalement, en fait, tout le monde me dit, mais toi, tu joues énormément, Jean-Benoît et tout, mais comme je dis, c'est souvent 2 jours, 3 jours, en fait, donc... Alors après, je communique parce que c'est un peu l'époque qui veut ça, mais je mets chaque fois des petites photos, oui, pendant ce temps-là, sur le tournage de machin, mais... Comme je dis, parfois c'est 2 jours, parfois c'est 3 jours, alors à l'arrivée, je travaille beaucoup plus que beaucoup de gens, c'est aussi difficile à un endroit... d'accéder à des gros rôles, comment dire, il y a un côté coup de chance en cinéma, en fait. La plupart du temps, on démarre avant 20 ans ou on démarre pas ou très rarement. La plupart des gens qu'on connaît, des stars maintenant, c'est des gens qui ont commencé entre 8 ans et 15 ans, quoi. En fait, un peu par hasard, ou des fils d'eux, ou des gens qui ont été mis en place par leurs parents, etc. Et c'est pas du tout une critique des Nepo Babies ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que il y a un moment donné, moi, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'aime bien travailler avec toi, c'est super, on est content, mais il n'en revient pas moins que moi, industriellement, je pèse pas très lourd. Donc, si même quelqu'un dit, tiens, je ferais bien un long métrage avec Jean-Benoît Hugues dans le premier rôle, oui, il joue très bien Jean-Benoît, mais en fait, il va pas rapporter de télé, il va pas rapporter de financement, il va pas rapporter. Donc, c'est vrai qu'il y a un endroit où il faut toujours, à un certain âge, en fait, composer le réel en se disant, bon, ben voilà, j'ai accès à ça, c'est chouette. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à réaliser beaucoup de films, mais maintenant, mon métier principal, c'est vraiment comme réalisateur, parce que je me disais, tiens, en fait, en tant que comédien, je joue, mais je joue quoi, 10, 15 jours par an. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup et pas beaucoup, quoi. Enfin, au quotidien, il y a quand même un moment où je m'emmerde. Et où je m'attristais un peu de me dire, tiens, en fait, je suis violoniste, mais j'ai pas de violon, quoi. Donc, moi, c'est pour ça. C'est pour éviter la tristesse et l'écueil d'attendre du téléphone qui sonne. Et puis, après ça, c'était de dire, ah merde, tiens, un tel refus un film m'a pas rappelé, tiens, un tel refus un film. Et moi, depuis que par exemple, Caverne des Lépines, on a travaillé ensemble, et depuis qu'on travaille ensemble, je vois que maintenant, eux travaillent aussi avec d'autres gens qui sont arrivés sur le marché, des Jonathan Cohen, des Raphaël Quenard, etc., qui étaient pas spécialement là au début, moi je travaillais avec eux, qui sont les gens qui amènent du financement, qui sont les gens qui leur permettent de faire des films, mais c'est pas du tout une critique envers eux, ils travaillent avec le réel, ils ont toujours dû, comme ils ont des montages financiers assez fragiles, ils ont dû travailler avec des gens connus, ils ont toujours travaillé avec des stars, etc. Mais donc, c'est vrai qu'il y a un endroit où c'est difficile parce que on voit, bon, le cinéma belge c'est pas énorme, on est dépendant du cinéma français. Enfin, on monte pas de films belges sans coproduction. On voit que le cinéma français c'est un peu un panthéon de 15 ou 20 personnes qui se partagent tous les rôles et qui lèvent tous les financements entre eux. Après ça, que ça crée une certaine consanguinité, il y a pas vraiment discuté. Enfin, ça se voit, on le voit bien. Quoi. Ils sortent entre eux, ils font des bébés entre eux, ils font des films entre eux, etc. Mais c'est vrai que c'est il y a un endroit où c'est difficile, en tant que comédien belge en tout cas, et on a un petit peu moins la cote qu'il y a 10 ou 15 ans à Paris, où c'était ah, les Belges, ou alors les Belges, etc. C'est un peu redescendu, pour des réseaux aussi financières, de tax shelter, de fin d'organisation, de coproduction, etc. Mais c'est sûr que c'est très difficile d'arriver à vivre du cinéma. Il y a personne qui vit du cinéma en Belgique. Ça n'existe pas. Tous les comédiens belges, François Damiens, Bouly, enfin, c'est pas ce qu'ils font les cinémas français qui vivent, quoi. On peut pas juste vivre des quelques productions qu'on fait en Belgique sachant que de toute façon, la plupart du temps, elles sont minoritaires et accouplées à des productions françaises. Et c'est vrai que nous, les comédiens, en fait, la plupart du temps, quand on nous appelle, c'est pour des tout petits, tout petits, tout petits rôles, parce que tous les rôles principaux ont déjà été distribués à des gens qui ont permis de lever les financements. Et donc, on m'appelle en disant, tiens, il y a un garagiste, un voisin, un truc, est-ce que tu veux bien venir pour 2 jours, pour 3 jours? Donc, voilà, il faut arriver à rester sur le fil en n'étant pas malheureux ou aigri, parce que c'est difficile.
L'âge mûr, c'est une chose en tant que réalisateur. Puis il y a aussi le docu qui continue avec Immaculée Conception. Vous avez tourné à Lourdes.
Oui, ça j'ai tourné à Lourdes. Il y a déjà un peu plus de 2 ans maintenant. Là, il est vraiment terminé. On inscrit en festival. Et je tourne aussi pour l'instant un documentaire sur les éboueurs de Bruxelles. Qui s'appelle Le bruit et l'odeur, où là je suis vraiment avec eux au cul du camion à 4h du matin au dépôt, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, c'est génial. C'est un monde à part, et je commence vraiment de loin, mais je commence tout doucement un documentaire sur les nettoyeurs de l'extrême, les gens qui vivent des maisons après décès, après syndrome de Diogène, etc., qui sont des réalités humaines assez douloureuses, quoi, la plupart du temps, et où là je négocie des productions avec les maisons de nettoyage, parce que il y a vraiment des critères de confidentialité, quoi. C'est assez difficile de filmer des maisons, parce que c'est souvent des gens qui ont complètement perdu le lien familial, donc les familles sont pas toujours très désireuses qu'on vienne mettre le doigt là-dedans, mais ça je négocie aussi. Et là c'est pour ça que dès que maintenant je deviens réalisateur, c'est que il y a un énorme travail de production, quoi, que ce soit pour les poubelles, pour les éboueurs. Chaque jour j'envoie une vingtaine, une trentaine de mails, quoi, à minima. Bonjour, je me permets de vous relancer pour ceci, pour cela, je fais des recherches, telle entreprise de ceci, cela, c'est moi qui, enfin, j'ai tous des tableurs, quand est-ce que je dois relancer qui, pourquoi, comment, enfin. Et donc c'est un gros travail, mais c'est vrai qu'il y a comme ça une manière de déjouer le réel, en me disant voilà, si au moins je mets mon travail en place, je suis content. Et c'est vrai que le documentaire me permet d'une part de travailler, parce que j'aime bien pratiquer dans le
un peu comme le danseur à la barre sur les égouts.
Oui, tout à fait. Il y a quand même quelque chose où je me dis en fait il faut tourner, et voilà. Et comme comédien, c'est vrai qu'on a parfois ce malheur là de se dire, on prend certains comédiens en disant ah oui, lui, bah dis donc, il a de la chance, il fait ça et tout. Je dis oui, mais on me prête qu'au risque, quoi. À un moment donné, de tourner, moi j'apprends énormément de voir les films que j'ai fait. On a bien sur cette séquence-là, je le sentais que j'en faisais un peu des caisses, mais en le voyant, je me dis qu'effectivement j'aurais pu jouer un peu plus ou un peu moins. Ou là, je revoyais l'âge mûr, mon film hier, on me disait tiens, à ce moment-là, c'est vrai que cette séquence-là, j'aurais pu ceci, cela. Et donc il y a un endroit où de pratiquer l'outil, il y a rien à faire, quoi. Des comédiens qui jouent moins, je vais pas dire qu'ils jouent moins bien, mais en tout cas ils expérimentent moins. On va plus revenir vers ce qu'on connaît. On va plus avoir des petites habitudes, des petites techniques qui sont complètement différentes. Que il y a quand même des gens à qui on propose des rôles extrêmement particuliers. Et c'est vrai que c'est ça qui donne envie, quoi. C'est-à-dire tiens, pour tel rôle, il faut apprendre ou perdre du poids ou en prendre, ou dire tiens, si je dois jouer un abatteur dans une boucherie, comment ça marche, aller observer, etc. Et c'est vrai que cet enjeu-là de comédien, on l'a quand même assez rarement quand on est plus quand on est dans des petits rôles, quoi. Quand Jérémy Régnier va faire Claude François, ben c'est sûr que voilà, on dit tiens, il doit suivre des cours de danse, il doit faire, voilà, c'est assez captivant pendant des mois et des mois de pouvoir faire ça. Et moi, c'est vrai que le fait de ne pas avoir ça au quotidien, je le compense par la réalisation qui me permet d'arriver dans des endroits que je connais moins, fréquenter des gens que je connais moins, et le réel. Là, j'ai été nettoyer une maison où le monsieur avait eu un Diogène. Il a vécu seul, on l'a retrouvé mort un jour dans le couloir avec 26 chats autour de lui. La maison, c'était de la merde de chats partout, ils devaient nettoyer les murs au Karcher, etc. Et il y a une espèce de confrontation réelle qui pour moi, en tout cas, en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'humain, est ultra nourrissante, quoi, qu'on a moins sur les plateaux de cinéma. Et quand on parle des comédiens qui tournent beaucoup, ben, l'écueil des comédiens qui tournent beaucoup, c'est que c'est des gens qui sont complètement hors sol, qui ne servent plus le prix du pain, qui sont conduits en taxi, des chauffeurs tout le temps. Et ça, bon, je suis très loin d'y arriver, Dieu m'en garde. Mais c'est vrai que pour ça, le travail documentaire, m'aide vraiment à comprendre. Je vois, même quand je suis là-dedans, la pensée qu'ont les gens sur les chômeurs, sur les artistes. C'est un endroit où, quand on est un petit peu entouré de nos proches, on se dit, nous, entre gauchistes, nous pensons que... Et c'est quand même toujours important, je trouve, de se confronter au réel, quand on se dit, l'extrême droite monte, comment ça se fait que l'extrême droite monte énormément, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas juste... c'est pas juste les pires fachos, les mecs habillés en nazis qui votent extrême droite, quoi. C'est une énorme frange de la population. Et le documentaire permet aussi de se dire, tiens, en fait, que vivent les gens? En fait, qu'est-ce qu'ils entendent comme réalité? Qu'est-ce qu'ils entendent comme discours de Bardella, de Goucher, qu'est-ce qui fait qu'ils disent, ouais, mais c'est quand même dégueulasse. Moi, je me lève à telle heure et tu te rends compte que. Et donc, c'est aussi intéressant. Enfin, voilà, pour moi, en tout cas, le travail documentaire me permet de me dire, en fait, le quotidien des gens est difficile, quoi. En fait, le réel est difficile pour énormément de gens. En fait, et c'est ce qui fait que les gens ont peur, c'est ce qui fait que les gens votent pas toujours au bon endroit. Mais voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Même quand je travaille plus comme comédien, je continue à faire des documentaires, même si c'est un peu à perte, parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits pour le diffuser. Enfin, c'est difficile, mais c'est vraiment important pour moi.
Et à tout prix.
À tout prix, ça, c'est une fiction. Qu'on fait pour l'instant avec mes amis, il y a aussi Laurent Capelluto, Catherine Salé, etc. Et là, je reviens à un endroit très très petit et fragile du cinéma, étant donné que l'équipe, c'est un chef opérateur, c'est tout, en tout et pour tout. Et donc moi, je mets les micros sur les gens, et là, on revient vers des cinémas que j'avais fait au début, avec la musique, avec des films comme ça.
C'est également Quentin De Vierse.
Non, ici, on a commencé avec Florian Berruti, qui avait fait l'image de plusieurs de mes films. Florian, il est puni parce qu'il a un bébé, donc pour l'instant, c'est quelqu'un d'autre, c'est Pépin Stru qui va venir un peu filmer, mais vendredi, il est pas là, donc c'est un autre qui va venir filmer, donc et là, on est beaucoup plus à la débrouille, mais c'est l'idée de quelqu'un qui veut réaliser un film à tout prix, donc c'est un réalisateur qui a pu tourner, c'est un film un peu méta, c'est un réalisateur qui a pu tourner depuis longtemps, et qui veut absolument tourner, et donc, et qui a pas de scénario, qui a pas d'argent, qui a pas trop d'équipe, mais qui veut absolument tourner, quoi. Et donc qui, contre vents et marées, va se mettre à réaliser son film. Et donc voilà, c'est à la fois un clin d'œil un peu à la profession, de dire, tiens, en fait, qu'on n'a pas de boulot, il faut bien le fabriquer. C'est sûr que ça part un peu de moi, même si moi, je ne trouve pas spécialement intéressant comme sujet de film, mais et de pouvoir un peu, de manière très ludique, rigoler de la profession et de se dire à quel point est-ce que les gens ont tous ces mondes de boulot, qui sont prêts à faire preuve de toutes les abnégations, et de travailler avec ce réalisateur qui est un type assez abject, mais dont on se dit, en fait, voilà, on est tous...
Ah, pas le choix.
Oui, on est tous contraints, il y a tellement peu de boulot que... Et j'ai collecté beaucoup de...
Sans vécu.
D'anecdotes au début de mon film, en me disant, tiens, je voulais que ce soit un peu plus gros, un film dans le film, quelque chose d'un peu plus volumineux, mais comme je suis tout seul à tout faire, en fait, je suis limité qu'au niveau de mes moyens, mais j'ai pris des anecdotes et des anecdotes de tournage, de casting, de machin, où en fait, on subit tous des vilainies quotidiennement. Enfin, là, moi, je suis retrouvé la semaine dernière, aller passer un casting à Paris, où on m'a dit, ouais, faut absolument que tu sois là à 9h du matin, j'ai pris le train à 7h, ma copine a dû m'acheter, et puis, pour que finalement, on me dise, ah non, mais on a bien réfléchi, en fait, on va rajeunir le rôle de 15 ans. Et disant, en fait, putain, j'ai payé 300 balles de train, j'ai tout bloqué mon emploi du temps, c'était urgent, et néanmoins, on est quand même tous contraints de jouer le jeu, quoi, sauf passer un certain stade où les gens mènent la danse, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est quand même souvent, c'est très clivant, quoi, où on fait vraiment partie des gens qui font pas du tout la pluie et le beau temps, où on fait partie des gens qui font la pluie et le beau temps, et qui donc font que on les attend, et que ça coûte des cent et des mille, les acteurs, ils gagnent des sommes mirobolantes, quoi, c'est complètement fou, les gens qui repartent avec un appartement à chaque tournage, quoi, c'est face à des régisseurs ou des assistants machin qui vont être payés en RPI 125 balles par jour, et voilà, il y a quelque chose là-dedans où j'avais envie, je le fais dans la limite de mon budget et de l'humour que j'ai, etc., mais j'avais envie de pouvoir faire un film en disant, tiens, d'un côté, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur qui a envie de tourner, qui a pas le temps, qui a pas l'énergie, qui veut contre vents et marées faire son film, et en face de lui un système dans lequel on dit ouais, mais bon, ça va prendre autant d'années, et puis tu sais, il faut des stars, et puis il faut voilà, et en effet un dispositif, et moi je le vis avec l'âge mûr, quoi, le fait de faire un film comme ça un peu à la bonne franquette, après ça le réel nous rattrape, on dit oui, mais bon, il y a pas de stars, ça ressemble un peu à l'attachement, ça ressemble un peu aux enfants des autres, donc en fait tu vois, le marché est déjà pris, donc moi je peux pas me positionner, etc., et en fait on arrive dans une réalité industrielle, parce que les films coûtent plusieurs millions et que c'est de l'industrie, en fait. Enfin, tout simplement, on n'est pas... Et il y a beaucoup plus de films qui se font qu'avant. Je fais partie de la commission du cinéma. C'est exponentiel, quoi. Le nombre de films qui se proposent, avec des enveloppes qui se réduisent. La droite qui tape sur la culture et qui veut tout fermer, tout détruire, tout privatiser. Il y a un endroit où c'est vrai que c'est difficile, et d'arriver à rester un petit chevalier artisan dans une industrie du cinéma, c'est très très difficile, quoi. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu un vœu vertueux. Après, en Belgique, on a l'avantage qu'il y a le chômage et que donc les gens sont tous prêts à travailler. On n'a pas besoin de faire des heures comme en France. On verra combien de temps ça dure. Mais c'est déjà Joachim Lafosse, à l'époque, quand il a fait Sarah Andreu, qui avait dit que le premier producteur de son film, c'était le chômage. Et c'est vrai, quoi, en fait, parce qu'on peut se permettre. Là, je fais un film où personne n'est payé, quoi. Et donc, parce que les gens disent, bon, ben, on a envie de le faire. Et c'est ça qui est génial en Belgique, c'est qu'il y a vraiment une dynamique et une envie, en tout cas, de faire du cinéma, mais qui fait aussi que, malheureusement, parfois, ça fait un peu un effet de masse, qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de cinéma et qu'il n'y a pas vraiment de marché pour l'intégrer. Ouais.
Jean-Benoît, un grand merci. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir L'âge mûr à Ostende, on peut annoncer qu'il sera projeté au Love Festival à Mons en mars prochain.
Oui, c'est ça, je crois, le 10 mars ou 10 et 11 mars. Il y a deux projections. Et après, normalement, il y aura encore d'autres projections et on espère en tout cas qu'il sortira en Belgique en septembre. Quoi. On le fait en place, on essaie de mettre en place un système de distribution pour qu'il sorte en septembre en Belgique.
Merci.
Avec plaisir.